une formule, une expression qu'il faudrait expliciter, qu'il faut utiliser avec certaines précautions. Mais en tout cas, on a retenu cette formule pour faire vite, parce qu'elle évoque assez bien la cible de la formation qu'on va vous proposer. Pour nous, ça produit un effet de loupe sur les processus d'entrée dans le métier de manière plus générale. Donc il y a cette idée d'effet de loupe qui fait que je pense qu'on peut retrouver, du point de vue du développement de l'activité des débutants, des novices, des choses qu'on voit de manière exacerbée lorsqu'ils sont confrontés effectivement à des situations d'enseignement plus ou moins dégradées, des conditions difficiles sur lesquelles on reviendra, mais qui du coup, pour nous, éclairent de manière plus large justement les processus d'entrée dans le métier, la façon dont ces jeunes collègues s'efforcent d'avoir du métier en essayant d'être justement du métier dans lequel ils s'apprêtent à entrer. Donc c'est des choses sur lesquelles on reviendra, mais pour nous, c'est un point important, cette idée que regarder finalement les difficultés à enseigner en milieu difficile quand on entre dans le métier, c'est peut-être se donner les moyens de mieux comprendre ce que c'est qu'entrer dans ce métier, mais plus largement aussi ce que c'est que ce métier, y compris chez les expérimentés. C'est un petit peu ça qui va organiser le travail qu'on va faire. Deuxième remarque, le public là est assez composite, des gens qui sont plutôt sur le premier degré, d'autres plutôt sur ce qu'on appelle chez nous à Aix-Marseille les PCL, qu'on appelle dans nos IUFM les PLC, donc nous on dit prof collège lycée. On a fait le choix d'essayer de balayer, à travers les études de cas sur lesquelles on va travailler, balayer justement les deux niveaux d'enseignement, à la fois ce qui relève davantage de l'école primaire, mais aussi ce qui relève de l'entrée dans le métier des enseignants du second degré, et tout particulièrement, ça concernera l'intervention de Luc, mais pas seulement, qui lui relatera le travail qu'il fait avec Patrick Rayou, actuellement en Seine-Saint-Denis, justement sur l'entrée dans le métier des jeunes enseignants second degré. Mais là aussi avec cette idée que finalement, au-delà des ordres d'enseignement, on retrouve un certain nombre de processus assez communs relatifs à la façon dont un débutant, justement, s'efforce d'avoir du métier progressivement. Voilà, donc ce qui nous réunit, on a là parmi les intervenants, on a en fait trois équipes. Une première équipe, le RTE de Nice, à laquelle appartiennent et à laquelle j'appartiens aussi, Jacques, Eric, j'ai une double appartenance. L'UMR ADEF, donc, qui associe l'UFM d'Aix-Marseille et l'Université de Provence et l'INRP. Et puis le laboratoire PAIDI, auquel appartient Lucria, qui est un laboratoire dirigé par Roland Guagou. Et au-delà, je dirais, de différences sur lesquelles on ne va pas s'appesantir là, dans le cadre de cette formation, de cas théoriques, de méthodes, etc., ce qui nous réunit, c'est le souci du travail réel, le souci de l'activité, on va y revenir, c'est-à-dire aller voir effectivement comment, notamment là pour le cas des enseignants débutants, comment ces jeunes collègues se débrouillent avec les défis, avec les difficultés qu'ils ont à affronter lorsqu'ils entrent dans le métier. Donc c'est cet ancrage fort dans l'activité, dans ce que les ergonomes appellent l'activité réelle, qui constitue le dénominateur commun de ce qu'on va présenter, au-delà de petites différences qu'il peut y avoir ensuite sur les ancrages théoriques, sur les méthodes utilisées. Et on reviendra notamment sur ces questions de méthode vendredi, à l'occasion d'une présentation plus ciblée sur les dispositifs d'analyse de pratique. Donc ce que je vais vous proposer maintenant, c'est justement quelques éléments conceptuels, des notions qui nous paraissent utiles en tant qu'outil pour analyser l'activité des débutants. Alors, j'ai choisi pour cette présentation de m'appuyer sur ce que j'appellerais deux prototypes cliniques qui sont pour nous assez significatifs de processus qui valent bien au-delà de ces cas singuliers sur lesquels on va revenir. Le premier concerne donc une jeune collègue, Aline, qui au moment de l'entretien que j'avais conduit avec elle était dans sa première année, donc son année de T1, néo-titulaire en ZEP. Et puis la seconde illustration clinique, le second prototype clinique, concerne cette fois un entretien de conseil avec un PCL2 EPS et son conseiller pédagogique. Alors, j'ai choisi un très court extrait dans le cadre de cette présentation, un très court extrait d'un entretien assez long conduit avec elle au moment de sa première année de prise de fonction, au cours duquel elle revient à un moment donné dans l'entretien sur le rapport finalement entre les difficultés rencontrées et puis ce qu'elle avait pu approcher en formation, ce qui l'avait attiré, ce qui l'avait intéressé, etc. Et elle me dit donc, dans l'entretien, j'ai fait un mémoire à l'UFM sur la grammaire au cycle 3 avec comme référence, je sais plus, bon, en gros, faire de la grammaire sans en faire, les rendre actifs pour qu'ils réfléchissent sur la langue, faire des poèmes et tout. Ben, après, je me rendais compte que ça marchait pas du tout. Alors, je revenais à des choses traditionnelles. Et puis, au bout d'un moment, comme je m'ennuyais, ça n'allait pas du tout. Alors, je me remotivais pour repartir sur, par exemple, l'écriture d'un récit en me disant qu'on allait bosser le passé simple en écrivant l'imparfait et puis tout ce qui va derrière. Je sais pas. J'ai pas su gérer tout ça, malgré toute la théorie que j'ai pu lire, quoi. Donc là, il y a un premier point qui me paraît intéressant ici, qui est un aspect de la formation sur lequel on reviendra largement, qu'on pourrait approcher à travers une distinction qu'ont proposé des collègues qui sont chercheurs dans le champ de la didactique professionnelle, notamment Pierre Rabardel. Qui insiste sur le fait qu'une formation professionnelle, la visée d'une formation professionnelle, c'est moins de former des sujets connaissants que des sujets capables. Alors bien entendu, il ne s'agit pas, ça ne veut pas dire que la cible d'une formation professionnelle d'enseignant concerne des sujets qui seraient ignorants en matière d'enseignement, bien entendu, mais ça veut dire pour Rabardel que la logique d'une formation professionnelle, c'est de développer justement la capacité à faire face à des situations professionnelles. Et ça veut dire du coup que les savoirs qui circulent dans cette formation, qui sont travaillés dans la formation, devraient être subordonnés au développement de cette capacité à faire face à des situations professionnelles. Donc c'est l'opposition qu'il fait entre sujet capable d'un côté et sujet connaissant de l'autre, en montrant que dans le cas des didactiques et des disciplines, c'est le sujet connaissant qui est premier, alors que dans le cas d'une didactique professionnelle, il faut subordonner le sujet connaissant au sujet capable, c'est-à-dire au sujet à la fois en capacité d'eux, comme dira Bardel, mais aussi en puissance d'eux. Donc là, il me semble qu'il y a un point sur lequel on reviendra, mais sur lequel je voulais tout de suite mettre l'accent, parce que ça apparaît dans les propos d'Aline, lorsqu'elle évoque ce rapport à la théorie. C'est-à-dire que c'est bien après dans l'opérationnalisation, et ça revient très très largement dans toutes les enquêtes qu'on a pu mener sur les T1, à un moment donné, quand on a les mains et les pieds dans la classe, se pose la question de comment on fait, comment on s'y prend. Et a fortiori, quand on se trouve face à des conditions d'exercice dégradées, où on se trouve face à des publics qui ne sont pas a priori disposés à entrer dans les tâches que le prof est amené à leur proposer. Donc cette notion de sujet capable me paraît être un analyseur intéressant d'une formation professionnelle. Comment, on y reviendra, pour nous c'est un des enjeux. Bien sûr, on ne réglera pas la question dans ces 3 jours, mais c'est un des objectifs de ces 3 jours que d'essayer de mieux identifier les conditions pour former des sujets capables en formation professionnelle, pour lesquels le savoir soit subordonné au développement de cette capacité. Donc on voit bien comment chez Aline ça se traduit, malgré toute la théorie que j'ai pu lire, j'ai pas réussi à mettre en œuvre ce qui par ailleurs m'a accroché, ce qui par ailleurs m'a vivement intéressé à l'UFM, c'est-à-dire une approche de la grammaire, dont elle a du mal d'ailleurs à cerner tous les aspects, mais qui en tout cas est une façon, on pourrait dire, un peu innovante de faire de la grammaire aux élèves. Et vous voyez que le deuxième point sur lequel je voulais revenir à partir de ce très court extrait, c'est cette sorte d'alternance qu'elle évoque entre des moments où elle essaie de mettre en œuvre des prescriptions, on pourrait dire, issues de l'IUFM, notamment de sa formatrice de français, prescriptions auxquelles elle a adhéré, elle le dit avoir adhéré à ses prescriptions dans l'entretien, et par ailleurs, se rendant compte que ça ne marchait pas du tout, comme elle dit, parce que probablement qu'un certain nombre de sous-entendus liés à la façon de faire vivre ces prescriptions lui ont échappé ou n'ont pas été suffisamment explicités en formation, elle en revient à du traditionnel, pour essayer, malgré tout, de parvenir à prendre la classe en main, à installer les conditions du travail dans la classe. Avec donc une alternance entre des moments innovants où elle fait ce qu'elle voudrait faire, mais où ça dérape très vite, et elle est en ZEP, je le rappelle, notamment dans un CM2 difficile, où elle perd très rapidement la main sur la classe, et donc elle revient à du traditionnel, où là, elle tourne le dos à ce qu'elle voudrait faire, mais où, vous allez le voir, elle a une sorte d'efficacité malgré tout en termes de mise en ordre de la classe. Donc un dilemme qui ne tarde pas à se faire un jour dans son activité, entre finalement ce qu'elle voudrait faire, mais qu'elle n'arrive pas à faire, et ce qu'elle fait, ce qu'elle est contrainte de faire, qui tourne le dos à ce qu'elle voudrait faire, mais qui produit une certaine forme d'efficacité du point de vue de ses préoccupations initiales qui sont instaurer les conditions du travail dans la classe. Et quand je dis ces préoccupations, on voit bien là aussi que ces préoccupations, elles sont multiples, parce qu'il y a à la fois les préoccupations liées à son confort professionnel, on pourrait dire, dans la classe avec ses élèves. Et c'est un aspect sur lequel on reviendra, qui peut-être est trop souvent négligé en formation. L'activité de l'enseignant, elle est à la fois tournée vers les élèves, mais elle a des effets en retour aussi sur l'enseignant, en termes de confort ou d'inconfort. Et c'est souvent à partir de ces situations de confort ou d'inconfort professionnel que les débutants sont amenés à prendre des décisions dans la classe, beaucoup plus qu'en regard de la pertinence didactique des choix qu'ils font. Hein. Luc reviendra très largement là-dessus demain matin, hein, mais je crois que là, c'est un point aussi important dans notre approche, sur lequel je reviendrai, qui est lié à notre ancrage dans l'ergonomie, qui est ce souci de prendre en compte à la fois l'efficacité par rapport à l'objet du travail, organiser les conditions de l'étude dans la classe, si on peut s'accorder sur une définition rapide de l'objet du travail du professeur, organiser les conditions de l'étude dans la classe, mais aussi les effets en retour de ce travail sur l'enseignant lui-même, en termes de sentiment de confort ou d'inconfort, en termes de sentiment de malaise, de mal-être, etc. Donc vous voyez ce dilemme qui apparaît et qui va la conduire, c'est la deuxième partie de l'entretien, a déclaré dans l'entretien, donc j'avais des périodes où c'était très traditionnel et moi je m'ennuyais. Et au passage, vous voyez que c'est intéressant là aussi de noter que ce qu'elle pointe, c'est effectivement les effets sur elle-même avant les effets sur les élèves. Elle ne parle pas des élèves, là, elle dit je m'ennuyais. Je m'ennuyais parce que je faisais tout autre chose que ce que j'aurais voulu faire. Et au bout d'un moment, ça se sentait, il n'y avait que les notes. Alors la compétition, donc pour les élèves, entre eux, la compétition et ah oui, s'ils n'avaient pas le modèle, incapables de faire quoi que ce soit. Mais en même temps, alors là, j'avais le silence et tout. Mais la plupart faisaient n'importe quoi. Et ils ne réfléchissaient pas du tout. Donc ça, moi, ça me mettait en rogne. Je me disais, c'est plus possible. Il faut que je fasse autre chose. Et j'étais tout le temps divisé, voilà. Et là, apparaît quelque chose qui me paraît, là aussi... mériter d'être pointé comme allant bien au-delà de ce cas singulier, le cas d'Aline, cette idée de division à l'intérieur de soi-même, comme beaucoup de mal à gérer un certain nombre de débutants, hein, qui ont le sentiment justement qu'ils sont clivés entre d'un côté ce qu'ils voudraient faire et qu'ils n'arrivent pas à faire, et de l'autre ce qu'ils sont contraints de faire et qui leur procure une forme d'efficacité malgré tout, provisoire, etc. Hein, mais qui entre en conflit avec ce qu'ils voudraient faire. Donc cette idée de dilemme sur laquelle reviendra aussi Jacques, qui finalement est une façon quand même, à mon avis, assez en rupture à la façon dont on regarde l'activité des débutants, dès lors qu'on a en tête cette idée qu'ils essaient de trouver les moyens de sortir de ce qui les divise, justement, en faisant des compromis plus ou moins efficaces, qu'il va falloir déplacer, et c'est l'enjeu de la formation, que de les aider à réactualiser ces compromis dans le sens d'une efficacité accrue, à la fois en direction des élèves, mais aussi en direction de leur propre activité. Donc, premier point un petit peu plus théorique, hein, par rapport aux notions qu'on utilise. Ce qui apparaît là, c'est cette idée que, et ça va bien au-delà des enseignants débutants, là aussi, je crois que l'activité des débutants produit un effet de loupe sur ce processus. J'ai repris une formule que j'emprunte à un psychologue, Philippe Malrieux, qui est assez méconnu, qui est spécialiste de Vallon en France, à travers cette idée que les enseignants au travail sont sollicités par plusieurs forces, et que, là je cite Malrieux, ils sont engagés dans une pluralité de cadres de signification de leurs actes. Je crois que là il y a quelque chose de tout à fait important, cette idée que quand on regarde l'activité des débutants, on se rend compte qu'on peut attribuer des significations différentes à cette activité selon le cadre où on se place. Donc, je vais essayer de préciser cette idée. On voit bien avec l'exemple d'Aline que la même activité, à savoir, par exemple, faire du traditionnel avec les élèves, si on la regarde du point de vue de l'efficacité provisoire qu'elle procure par rapport à la prise en main de la classe, elle a une certaine efficacité. Et donc, d'une certaine façon, elle a une certaine valeur pour Aline. Mais en même temps, si on la regarde du point de vue de ce qui la préoccupe sur le plan de ses conceptions de l'apprentissage, c'est-à-dire faire vivre dans la classe des situations où les élèves soient actifs, etc., il y a une activité là qui lui pose problème, hein, une activité qui entraîne une sorte de perte de sens pour elle par rapport à ce qu'elle voudrait faire. Donc cette idée qu'il faut multiplier finalement les cadres de signification quand on regarde l'activité, on y reviendra largement, hein, si on veut justement approcher la complexité de l'activité, et notamment toucher les aspects qui sont à l'origine de la division, du sentiment de division dans lequel se trouvent placés les débutants. Ils sont divisés précisément parce qu'ils regardent leur propre activité avec des cadres de signification différents. D'un côté, des préoccupations, de l'autre, un souci d'efficacité malgré tout. Et ça, ça se percute dans leur activité. Et du coup, ça nécessite, vous voyez, en formation, de déplier ces cadres de signification pour pouvoir les aider à en faire quelque chose. Alors, bien entendu, vous voyez que là, il y a presque des enjeux vitaux pour les débutants, et tout particulièrement pour ceux d'entre eux qui exercent en zone d'éducation prioritaire, puisque, je continue à citer Malrieux, Malrieux dit « il leur revient », alors je transpose la proposition de Malrieux au cadre du travail des enseignants, « il leur revient alors la tâche de les organiser, d'organiser ces cadres de signification, pour ne pas être condamnés à l'inefficacité, d'un côté, ou à l'absurde de l'autre. » Donc cette idée qu'il y a des tensions plus ou moins fortes dans toute activité de travail, et tout particulièrement chez les débutants justement dans des conditions d'exercice difficiles, dégradées, entre d'un côté la recherche de sens de l'activité et de l'autre la nécessité d'efficacité et d'efficience. L'efficience, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'efficacité. L'efficacité, c'est le fait d'arriver à atteindre plus ou moins le but qui est, dans un premier temps, de mettre la classe en ordre pour pouvoir organiser le travail des élèves. L'efficience, c'est l'économie des moyens pour parvenir à ce résultat. Et vous voyez qu'on peut probablement regarder cette alternance dans son activité entre des moments où elle met en place des dispositifs plus ou moins innovants qui très rapidement génèrent du désordre dans la classe qu'elle a beaucoup de mal à gérer, et puis le retour à du traditionnel, comme un moyen de s'économiser, et elle le dit d'ailleurs dans l'entretien, ça me permettait de souffler un petit peu, de retrouver de l'énergie et de repartir sur de l'innovant, sur d'autres bases, en essayant de tirer parti, etc. Donc cette idée qu'il y a finalement un tissage permanent dans l'activité entre souci de sens, recherche de sens et nécessité d'efficience, y compris parce qu'on a besoin d'économiser ses ressources. Et ça vaut là aussi pour les débutants, mais ça vaut pour tout enseignant de manière plus générale. Alors à partir de là, et vous allez voir que la définition que j'ai retenue parmi les multiples définitions de l'activité, elle me semble faire tout particulièrement écho aux propos d'Aline. Donc je l'emprunte à une collègue ergonome, Monique Noulin, qui est décédée il y a quelques années, où elle dit finalement l'activité c'est le reflet et la construction d'une histoire. Donc premier point important sur lequel on reviendra aussi largement, cette idée de dimension historique de l'activité. Chaque fois qu'on réduit l'activité à ce qui se passe à l'instant T, dans l'ici et maintenant, on peut être à peu près sûr qu'on fait passer toute une partie de la complexité de l'activité à la trappe. Parce que l'activité, elle s'inscrit dans une histoire. Et ce qu'on observe à un moment donné de l'activité de quelqu'un, ça n'est qu'un des aspects du réel de son activité, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire de tout ce qui le préoccupe, de tout ce qu'il essaie de faire sans y parvenir, etc. Donc cette idée que l'activité réalisée à un moment donné, ça n'est qu'une toute petite partie du réel de l'activité d'un sujet. Et y compris de l'activité d'un débutant, même si le réel de son activité n'est pas de même nature que celui d'un enseignant expérimenté. Donc première idée, cette idée qui renvoie à la nécessité d'inscrire l'activité dans sa dimension temporelle et donc dans sa dimension développementale. Donc c'est aussi un aspect qui rapproche les trois équipes, à cette idée de s'intéresser au développement professionnel, Eric en a parlé tout à l'heure, qui pour nous est un complément nécessaire à l'idée de professionnalisation. On y reviendra, mais la professionnalisation, qui est un processus très largement en cours aujourd'hui, pour nous, ne suffit pas à penser la question du développement professionnel. Parce que bien souvent, la professionnalisation est abordée sur un mode assez prescriptif. Il s'agit de professionnaliser un métier qui est en perte d'efficacité et qui, du coup, quelquefois, justement, produit une sorte de déconnexion avec l'activité réelle, le travail réel déjà. Les soucis qu'ils ont, les difficultés qu'ils rencontrent, etc. Et cette question du développement professionnel qui n'est jamais linéaire, qui est toujours fait de tissage, de rebondissement, de rebond, comme on le voit dans le cas d'Aline. Donc il nous paraît être une dimension tout à fait importante et qui, bien entendu, a des conséquences pour nous, à nos yeux, importantes en formation. Oui, bien sûr, n'hésitez pas.
Moi, je voudrais juste rajouter que cette dimension historique, ça nous pose un problème central, mais pas seulement au niveau de la recherche. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir comment on le prend en compte, ça. Mais concrètement, c'est-à-dire, nous, par exemple, on fait des recherches, on va voir des enseignants novices, comment prendre en compte cette histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce à quoi on accède, par des entretiens, des observations, etc., ben c'est une photographie Et donc, enfin, on en parlait encore tout à l'heure à propos de, hein, d'une recherche que tu faisais, à propos d'un ancien...
Qui sera présenté vendredi matin par Christine Félix. Ouais.
D'une ancienne PO2, c'est ça?
Non, c'est une jeune prof d'histoire, un jeune prof d'histoire géo qu'on a rencontré en TE1 et avec qui on a fait une autoconfrontation sur le film de son activité 3 ans après. Et ça donne lieu à des choses tout à fait intéressantes, justement, sur la question du développement.
On a énormément de mal à le faire, parce que vous avez bien compris que bon, c'est difficile. C'est pendant un temps. Je pense que ça pose un problème pour les formateurs aussi, pour nous tous. Quoi. C'est-à-dire quand on va voir un jeune collègue sur le terrain et qu'on fait un rapport de visite...
Non, monsieur, n'hésitez pas à intervenir.
Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une photo, hein. On peut dire ce qu'on veut. On va voir une photo, alors qu'en réalité, cette photo, elle fait partie, ce n'est que... Ça fait partie d'un film où il y a 24 images par seconde, hein, et ce film, il dure déjà depuis 1h30, 2h. C'est-à-dire que finalement, et on a énormément de mal à prendre en compte, que ce soit les formateurs UFM ou les collègues conseillers pédagogiques ou les professeurs d'école maîtres formateurs, on a énormément de mal, enfin en tout cas moi j'ai énormément de mal en tant que formateur, à toujours me référer à cette idée que bon, bah, finalement c'est un moment qui est dans un continuum et ce continuum j'ai pas accès.
Voilà. Au passage, sur le plan des formes de travail, j'invite mes collègues à ne pas hésiter à intervenir comme vient de le faire Jacques, mais je vous invite vous aussi à intervenir, à vous manifester si vous en avez, si vous en voyez l'intérêt, la nécessité, n'hésitez pas à intervenir, à me couper, ça ne me gêne pas du tout, en plus j'ai PowerPoint qui me permet de garder le fil, donc on a aussi, je ne l'ai pas dit, mais le souhait, en plus on est assez peu nombreux, moins nombreux que l'effectif annoncé qui était de 25. Donc le but du jeu, c'est de rendre les choses le plus interactives possible. Hein. Donc il y aura aussi des moments de travail en petit groupe, mais n'hésitez pas, même en plénière, à intervenir à chaque fois que ça vous paraît utile. Donc je poursuis la définition proposée par Monique Noulin. Hein. Première idée sur laquelle j'ai insisté, cette idée de reflet et construction. Hein. À la fois ça reflète, mais en même temps c'est une construction en devenir d'une histoire. Deuxième idée, l'activité d'un sujet au travail est toujours celle d'un sujet actif. L'opérateur, comme disent les ergonomes, n'est pas passif par rapport aux prescriptions. Il essaie de faire quelque chose des prescriptions. Il essaie de faire quelque chose de ce qu'on lui demande de faire. Donc un sujet actif qui arbitre entre ce qu'on lui demande, d'un côté, la prescription, la tâche, et on y reviendra parce que la question de la prescription pour les enseignants est une question assez compliquée. Hein. Ils sont souvent soumis, les jeunes collègues, à des prescriptions multiples, quelquefois discordantes entre ce que leur demande le formateur de terrain, ce que demande l'inspecteur, ce que demande le formateur UFM, etc. Et ils ont la charge de trouver un moyen terme entre ces prescriptions plus ou moins discordantes. Donc entre ce qu'on leur demande d'un côté et ce que ça lui demande à lui de faire ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire ce que ça lui coûte du point de vue justement de sa mobilisation. L'activité, c'est aussi la mobilisation d'une subjectivité, de l'intelligence, de son corps, l'engagement corporel, etc. Tout ça, c'est des ressources à mobiliser pour pouvoir faire face à la situation de travail. Je poursuis la définition, hein, celle d'un sujet divisé. Alors vous voyez que là, on va retrouver exactement Aline avec, en des termes conceptuels de l'ergonomie, c'est intéressant de voir que, du point de vue de l'expérience d'un néo, c'est les mêmes mots qui sont utilisés. Hein. Celle d'un sujet divisé dans ses dimensions physiologiques, donc y compris les usages de soi sur le plan du corps, psychologique et social, et qui toujours doit construire son unicité en gérant le rapport qui le lie au réel, donc au réel de son travail, à l'objet de son travail, mais aussi aux autres. Alors les autres, ici c'est une définition qui ne porte pas spécialement sur l'activité enseignante, les autres pour l'enseignant, c'est à la fois les élèves, bien sûr, mais si on reste sur le cas d'Aline, c'est aussi les collègues. Et vous voyez comment ça rajoute des préoccupations aux préoccupations qui sont liées aux interactions avec les élèves, parce qu'un jeune collègue qui n'arrive pas à tenir sa classe, ben, ça commence à faire discuter en salle des maîtres, etc. Mais les autres, c'est aussi les parents qui ne manquent pas à la sortie de l'école de dire la jeune collègue, elle ne s'en sort pas, etc. Donc vous voyez quel type de pression aussi peut avoir sur ses épaules un débutant qui peut le conduire justement à faire tout autre chose que ce qu'il voudrait faire pour essayer de sauver la face et de montrer qu'il est capable de tenir sa classe et donc de faire du traditionnel alors qu'il voudrait faire de l'innovant. Alors, à partir de là, je vous propose un petit modèle qui va organiser finalement les différentes notions qu'on va utiliser tout au long de ces 3 jours et qu'on retravaillera de manière un petit peu spiralaire tout au long des présentations. Hein. C'est un modèle que j'emprunte à un auteur qui est un ergonome, François Hubot, hein, qui l'a proposé en 1996. et qui vise justement à faire apparaître le système de l'activité à travers un certain nombre de cadres, de notions sur lesquelles je vais revenir. Donc le premier point, c'est la question des prescriptions, hein. Ce que Hubo appelle ce qu'on demande, hein, ce qu'on demande aux gens. J'ai dit quelques mots sur cette question des prescriptions. Jacques y reviendra à travers une diapo là, dans le PowerPoint. Ça sera central dans la présentation de cet après-midi. Et de demain aussi, d'ailleurs. Puisque cet après-midi, on sera plus sur les transactions de règles de métier dans la formation. Et demain, on sera plus, demain après-midi, sur l'activité des élèves. Hein, mais toujours sous l'angle des prescriptions. Alors, ces prescriptions... Je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, c'est assez compliqué la question des prescriptions par rapport au travail enseignant, bien au-delà de l'activité des débutants. Parce que pour les ergonomes, les prescriptions, c'est deux choses. C'est ce qui est à faire, ce que les ergonomes appellent le à faire, mais aussi le pour faire. Deux composantes des prescriptions qui donnent finalement leur consistance aux prescriptions. Une prescription, c'est à la fois des résultats à produire, mais c'est aussi des moyens pour produire ces résultats. Le à faire et le pour faire, c'est-à-dire des modes opératoires, des procédures, des techniques, etc. Première remarque par rapport au travail enseignant, et là au-delà de l'activité des débutants, on se rend compte que les prescriptions qui régissent le travail des enseignants sont souvent très déséquilibrées, avec une hypertrophie des choses à faire, et paradoxalement, tout particulièrement en zone d'éducation prioritaire, on charge de plus en plus la barque de l'école dans des zones où c'est de plus en plus difficile de créer les conditions d'un enseignement efficace. En élargissant largement, à la fois sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif, la responsabilité de l'école en matière de formation de citoyennes, de résorption des questions de violence, etc. Ce qui a conduit, il y a quelques années, Jean-Yves Rochex, par exemple, à plaider en faveur d'une école à responsabilité limitée, recentrage de l'école sur ses missions propres, et tout particulièrement dans les zones d'éducation prioritaire. Donc ça, c'est un premier point, hein, cette idée d'un accroissement à la fois quantitatif mais aussi qualitatif des prescriptions adressées aux enseignants. Il y a de plus en plus de choses à faire, et des choses de plus en plus compliquées à faire. Je pense très rapidement là, à la mise en œuvre d'une pédagogie différenciée, l'individualisation, etc. On en parle énormément. Ça fait l'objet de prescriptions, ça fait l'objet d'injonctions institutionnelles. Mais quand on se tourne du côté du pour-faire, comment on s'y prend pour faire ça? Ben là, justement, on trouve le déséquilibre, il n'y a plus personne pour répondre, y compris les concepteurs eux-mêmes, qui incite à mettre en œuvre une pédagogie différenciée. Donc, vous voyez, cette idée, je prends l'exemple de la pédagogie différenciée parce qu'il est assez significatif, mais qu'on retrouve de manière très récurrente dans les prescriptions qui régissent le travail des enseignants, de plus en plus de choses à faire et très peu d'éléments sur comment on s'y prend pour faire ce qui est à faire. Donc une tendance qu'on observe plus largement dans les activités dites de service, hein, c'est-à-dire toutes les activités qui ont affaire à autrui, donc dans les milieux hospitaliers, le travail social, etc. L'enseignement fait partie des activités de service, où l'objet du travail, ce n'est pas de la matière, c'est un sujet. On observe une tendance très générale à laisser, du point de vue des prescriptions, à laisser à la charge de ce que les ergonomes appellent les opérateurs, ceux qui sont en première ligne, les mains dans le cambouis, leur laisser le souci de se débrouiller avec ce qui est à faire. Donc les concepteurs ne prennent plus le temps et ne se donnent plus comme objectif de mettre à la disposition des opérateurs des modes opératoires, des prescriptions du côté des moyens, hein, des moyens d'agir, dont pourraient s'emparer les enseignants, en l'occurrence, pour faire ce qui est à faire. Ça, c'est laissé à la charge des enseignants. Si on reprend l'exemple de la pédagogie différenciée, chacun de vous est formateur à un niveau ou à un autre, reviennent de manière systématique et récurrente dans les stages, mais comment on s'y prend, comment on fait? Donc cette question du comment, cette question du pour faire, elle est laissée à la charge soit des enseignants, soit des formateurs qui doivent, eux, trouver des moyens pour aider les enseignants qu'ils ont à former à mettre en œuvre de la pédagogie différenciée dans la classe. Ça, c'est un premier aspect des prescriptions, donc un déséquilibre, une hypertrophie du côté du à faire et, on pourrait dire, une atrophie des moyens qui sont censés permettre de faire ce qui est à faire. Deuxième caractéristique que j'ai évoquée tout à l'heure, cette idée qu'il y a une multiplicité de prescriptions adressées aux enseignants, et là tout particulièrement aux jeunes collègues, avec plus ou moins de discordance entre ces différentes sources de prescriptions. Donc si on recontextualise cette fois du côté des jeunes enseignants, hein, cette discordance dans la formation, elle apparaît à travers la façon dont chacun des acteurs de la formation va redéfinir pour son propre compte les prescriptions. Le formateur IUFM, l'inspecteur qui va, d'une certaine façon, à travers une politique de circonscription, mettre l'accent sur tel ou tel aspect de la prescription en fonction de sa propre lecture des prescriptions. Les formateurs de terrain, IMF ou conseillers pédagogiques dans le premier degré, conseillers pédagogiques dans le second degré, qui, eux, par rapport à leur expérience du métier, vont interpréter dans un sens encore quelquefois différent les prescriptions. Et tout ça, finalement, ça produit une sorte de... Alors, ça pourrait produire une sorte de polyphonie des prescriptions si la formation entretenait la controverse entre ces différentes sources de prescriptions. Or, aujourd'hui, et c'est un point sur lequel on reviendra, justement, il nous semble qu'un des points qui peut expliquer le manque d'efficacité de la formation, c'est que les jeunes collègues sont soumis à ces discours discordants, mais la formation ne considère pas comme un objet propre de formation le fait d'entretenir cette controverse-là entre des sources de prescription différentes. C'est-à-dire de faire des écarts entre des discours différents, de faire de ces écarts un objet de travail en formation. Et là, je rejoins des pistes qui sont empruntées par les collègues qui travaillent en particulier en didactique professionnelle. Je pense à des gens comme Patrick Mayen ou Philippe Astier qui a rejoint maintenant le sillon de la didactique professionnelle, qui insistent beaucoup. Il y a un texte assez ancien de Patrick Mayen qui s'intitule « Les écarts de l'alternance ». Et qui dit finalement, on s'accorde peut-être un peu trop vite sur l'idée que l'enjeu d'une formation, c'est de réduire les écarts, c'est de faire converger les discours. Peut-être qu'au contraire, c'est de reconnaître les écarts et de les faire vivre en formation pour justement permettre aux jeunes collègues d'appréhender l'idée que le métier parle à travers plusieurs voies et qu'il faut pouvoir les mettre en discussion, ces différentes voies. Voir en quoi elles se rapprochent, voir en quoi elles sont discordantes, plutôt que de laisser à la charge des stagiaires le souci de se débrouiller avec ces discours discordants qui, du coup, les conduit à une situation où cette discordance n'est plus une discordance productive pour eux, au sens où la controverse permet justement de faire parler le métier sous ses différentes facettes, mais devient une discordance, on pourrait dire, destructive. Parce qu'elle est tout à fait contre-productive, puisque finalement ils ne savent plus sur quel pied danser, ils ne savent plus finalement, et d'ailleurs ils le disent très fréquemment, mais finalement qui a raison quoi? L'IMF me dit de faire ça, j'ai été visité par l'inspecteur, il m'a dit de faire ça, le prof IUFM me demande de faire ça, où est la vérité du métier? Donc ce défaut de travail finalement sur la polyphonie du métier, le fait que le métier est resingularisé finalement par chacun des acteurs, le fait que ça ne soit pas un objet de formation, ça, et on y reviendra vendredi notamment, il nous semble que c'est un objet central de l'analyse de pratique, ça. Le fait que ce ne soit pas un objet de formation, finalement, laisse à la charge des stagiaires le souci de trouver finalement où se situent les bons gestes professionnels. Patrick Mayen, M-A-Y-E-N. Je fais référence, mais on vous donnera une biblio, je fais référence à un article qui est paru dans la revue Éducation Permanente il y a quelques années maintenant, qui est un article très intéressant, une réflexion sur l'alternance, donc qui s'intitule « Les écarts de l'alternance en formation ». Donc, voilà pour cette question des prescriptions. Et vous voyez que du coup, Jacques y reviendra, et puis ça sera l'objet, je l'ai dit, de plusieurs interventions. Ça explique pourquoi, même si on s'intéresse à l'activité au plus près du travail réel, ça explique pourquoi c'est très important pour nous de ne pas déconnecter l'activité des prescriptions. C'est-à-dire que quand on s'intéresse aux prescriptions, on continue à s'intéresser à l'activité. Alors, en face-à-face, on pourrait dire, et après je critiquerai un petit peu cette idée de face-à-face, mais par rapport à la modélisation que propose Hubot, elle convient bien. En face-à-face, par rapport à ces prescriptions, on trouve ce que les ergonomes appellent l'opérateur. C'est illisible. Donc, ouais, c'est un problème de couleur, je ne sais pas, mais normalement, c'est un problème de contraste. Bon, enfin, je vais lire, donc. Donc, en face-à-face des prescriptions, on trouve l'opérateur. Et si les prescriptions sont caractérisées par ce qu'on demande aux gens, c'est la formule qu'utilise Hubot, l'opérateur, lui, on peut le caractériser par ce que ça lui demande, ce que ça demande de faire ce qu'on me demande de faire. Donc cette idée qu'il y a toujours un conflit de logique entre d'un côté ce qu'on me demande et de l'autre ce que ça me demanderait de faire si je le faisais comme on me demande de le faire. sais pas si c'est clair, mais cette idée que il faut pouvoir faire ce qu'on me demande de faire, que je puise dans des ressources plus ou moins coûteuses, et donc je vais devoir arbitrer entre ce qu'on me demande d'un côté et ce que ça me demande à moi de faire ce qu'on me demande de faire. Donc, l'idée de conflit de logique, là, j'insiste rapidement, mais j'insiste néanmoins, elle est tout à fait importante parce que là aussi, on peut avoir une conception qui consisterait à dire on va réduire les écarts entre ce qu'on demande et ce que ça demande. Or, l'ergonomie a montré de longue date que c'est un écart irréductible, qui est à la source de toute activité, cet écart entre ce qu'on demande d'un côté et ce que ça demande de l'autre. Parce qu'on a affaire à deux logiques différentes. D'un côté, avec les prescriptions, on a affaire au processus d'organisation. Et je dis processus pour bien montrer que les prescriptions, ce n'est pas quelque chose de statique. Hein. C'est finalement tout le processus, depuis les règles jusqu'aux transactions de règles, la façon dont elles sont, dont les acteurs s'en emparent, etc. C'est un processus d'organisation. Et de l'autre, avec l'opérateur, ce que ça lui demande, on a affaire à la logique finalement du vivant. Quoi. La façon dont chacun va se débrouiller avec ça. Donc on ne peut pas superposer ces deux logiques, elles sont, pas, elles sont de nature différente et elles génèrent forcément du conflit qui justement se traduit par le fait que l'activité, ben, c'est précisément les compromis opératoires, c'est-à-dire les compromis qui permettent de travailler, hein, opératoires au sens d'opérer, en essayant de faire tenir ensemble à la fois les exigences de la prescription, ce que me demande de faire le prescripteur, ce qu'on me demande de faire, mais aussi ce que ça me demande à moi de faire ce qu'on me demande de faire. Ou ce que ça me demanderait si je le faisais comme on me demande de le faire. Donc là, on a une première notion centrale, hein, on y reviendra, cette notion d'activité qui, pour l'approche ergonomique, est inséparable de la notion de compromis opératoire. Tout opérateur, c'est le terme générique qu'utilisent les ergonomes, tout opérateur dans son activité de travail, qu'il soit enseignant débutant, qu'il soit enseignant expérimenté, qu'il soit formateur UFM, qu'il soit conseiller pédagogique, etc., passe son temps à faire des compromis opératoires entre ce qu'on lui demande et ce que ça lui demande à lui de faire ce qu'on lui demande de faire. Donc là, on touche à un analyseur fort de l'activité. Hein. Comment, justement, faire émerger ces compromis que fait tout opérateur au travail pour les remettre, justement, au travail dans la formation. Cette activité débouche sur de l'action, on va dire pour faire vite, les comportements, etc. J'ai retenu le terme d'action en référence à Leontief, qui est finalement la partie visible de l'activité, l'action réalisée par rapport à l'activité, à ses préoccupations, etc. Là aussi, on y reviendra, mais peut-être que bien souvent en formation, on se contente de regarder la partie visible de l'iceberg, la partie émergée de l'iceberg, l'action. Sans se rendre compte que cette action n'est compréhensible que si on fait une incursion dans l'activité, c'est-à-dire dans tout ce qui préoccupe le sujet avec lequel on travaille. Et cette action professionnelle débouche sur de l'efficacité, sur une double efficacité. Une efficacité que Hubot qualifie d'économique, au sens très large, hein, donc y compris dans les activités de service et de la prestation de service, pour l'enseignant, c'est l'organisation des conditions de l'étude, donc l'efficacité relative à l'objet du travail, mais aussi une efficacité donc, qui fait retour, hein, l'efficacité économique faisant retour sur les prescriptions, c'est le rapport entre finalement ce qu'on me demande et les résultats que j'obtiens du point de vue de l'objet du travail, mais aussi une deuxième niveau d'efficacité, qui est l'efficacité humaine, et qui, elle, est liée aux effets en retour du travail sur l'opérateur, et qui donc est à penser en lien avec ce que ça demande à l'opérateur de faire ce qu'on lui demande de faire. Donc, notamment en matière d'efficience, en matière... On pourrait, là... je vais finir de présenter le modèle, et je vais faire quelques commentaires après. Donc, l'activité, la définition classique que donnent les ergonomes, c'est ce que font les gens, ce qu'on fait. Donc ce qu'on fait, l'action, c'est ce qu'on voit. Et l'efficacité, c'est ce que ça fait, ce qui en résulte, ce que ça fait, à la fois du point de vue de l'objet du travail, en termes de résultat, mais aussi du point de vue des effets en retour sur l'opérateur lui-même. Et là, on a une distinction tout à fait essentielle à nos yeux que font les ergonomes, entre les résultats du travail d'un côté, ce qu'on pourrait appeler l'efficacité objective du travail, et de l'autre, les effets du travail sur l'opérateur, que j'appellerais volontiers l'efficacité subjective du travail. Alors, quelques mots sur cette idée de double efficacité qui nous paraît... Elle est essentielle en ergonomie. L'ergonomie s'est construite autour de cette idée qu'il y a toujours finalement deux entrées dans la situation de travail. D'un côté, ce qu'on demande, et de l'autre, ce que ça demande. Et deux sorties, les résultats du travail et les effets du travail, les effets en retour du travail sur l'opérateur. Et ces deux niveaux d'efficacité, c'est finalement, d'un côté, l'efficacité au sens strict, ce que j'ai appelé l'efficacité objective, et de l'autre, ce qu'on pourrait appeler l'efficacité au sens large, c'est-à-dire les questions de santé au travail, puisque l'ergonomie s'est construite autour de ces tensions entre nécessité d'efficacité, mais souci de santé des opérateurs aussi. C'est-à-dire de confort professionnel, c'est-à-dire plus largement de possibilité de retirer du plaisir de son travail, de pouvoir vivre son travail comme une occasion d'accomplissement de soi, de développement de soi, etc. Alors là, on touche, avec cette idée de santé au sens large, on touche à un aspect qui nous paraît assez malmené dans l'institution à laquelle on appartient, aussi bien du point de vue du fonctionnement de l'institution que du point de vue du fonctionnement souvent des formations, qui a tendance à occulter cette dimension de l'efficacité subjective au profit d'une centration sur l'efficacité objective, c'est-à-dire sur les résultats du travail. Alors que, et là, Luc y reviendra demain, je l'ai évoqué très rapidement là aussi tout à l'heure, on se rend compte que, probablement que dans un premier temps, c'est au moins autant l'efficacité subjective qui pilote, qui organise l'activité des enseignants débutants, que l'efficacité objective. Ou en tout cas, cette efficacité objective est systématiquement mise en relation pour eux avec l'efficacité subjective, c'est-à-dire avec la possibilité de trouver des dispositifs, des outils, y compris des outils traditionnels qui tournent le dos à ce que j'aurais voulu faire, mais qui me permettent, qui m'aident à résoudre des problèmes professionnels liés à la prise en main de la classe, à l'instauration du cadre dans la classe, etc. Et là, on retrouve cette idée de pluralité de cadre de signification dont je parlais. Le même dispositif, on peut le regarder à la fois comme un dispositif traditionnel qui a une certaine efficacité relative, et en même temps comme un dispositif qui, effectivement, si on le regarde du point de vue des préoccupations d'Aline, est en rupture avec ce qu'elle voudrait faire. Voilà, donc, pour finir, sur cette question de santé, je voulais juste dire que quand je parle de santé, là, au sens large, donc l'efficacité humaine, bien entendu que pour les ergonomes, c'est pas seulement l'absence de maladie. Il faut franchir un pas de plus, et même deux pas de plus. Le premier pas, c'est celui qu'on peut franchir avec la définition de l'OMS, qui est la santé comme état de complet bien-être physique, psychique et social. Donc là, une définition beaucoup plus large en termes de santé positive. C'est ça qui est visé dans cette notion de santé au travail. Et il me semble que là, on voit bien les répercussions que ça a sur l'activité des jeunes collègues, des stagiaires. La question du bien-être au travail est une question qui me paraît tout à fait importante à poser pour eux. En termes justement de possibilité de redéployer leur pouvoir d'agir, quand ils se trouvent en situation justement où ils sont malmenés, où ils ont le sentiment que la classe se met à avoir, à un moment donné, des rapports indépendants de leur propre activité. Donc cette question de la santé, c'est pas la santé négative au sens de l'absence de maladie. On fait un premier pas en direction de la définition de l'Organisation mondiale de la santé avec cette idée de définition statique de la santé. Mais il y a une troisième définition qui nous intéresse davantage, qui est une définition, on pourrait dire, dynamique de la santé comme processus, qu'on emprunte à Christophe Dejour, qui est quelqu'un qui travaille dans le champ de la psychodynamique du travail, donc qui s'intéresse à l'activité de travail sous un angle psychanalytique, et qui dit, en reprenant la définition de l'OMS, la santé, je cite de mémoire, c'est la possibilité pour chacun de tracer un cheminement original et singulier vers un état de complet bien-être physique, psychique et social. Là, il reprend la définition de l'OMS. Donc cette idée de santé comme processus jamais définitivement atteint, avec un horizon qui, comme pour le marcheur, se recule au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, on va essayer de voir que, précisément, cette idée de double efficacité, elle est au cœur de l'activité des jeunes enseignants, et tout particulièrement ceux d'entre eux qui sont confrontés, au moment de l'entrée dans le métier, à des conditions d'exercice difficiles. Alors, pour finir sur le petit modèle de François Hubot, Hubot propose donc de considérer que la performance d'un système de travail, la double efficacité, c'est pas l'effet d'une cause, c'est-à-dire ce qu'on demande, mais la manifestation d'un système autour de l'activité, et qu'à partir de là, il faut pouvoir se doter de ce qu'il appelle des indicateurs d'activité, le rapport entre l'activité et les actions, mais aussi d'indicateurs de résultats du point de vue de l'efficacité, à la fois du côté de l'efficacité objective, mais aussi de l'efficacité subjective. Alors, on reviendra là aussi parce que je crois que cette question de comment se donner des indicateurs d'activité, elle est cruciale lorsqu'on est en situation d'observer l'activité de quelqu'un ou de travailler sur cette activité en analyse de pratique. Bien souvent, on réduit finalement l'activité au comportement et à l'efficacité, et souvent l'efficacité objective, en faisant passer à la trappe tout ce qui est de l'ordre de l'activité, des indicateurs d'activité, qui pourtant pèsent de tout leur poids dans les résultats obtenus. Un tout petit exemple de ça, hein, dans les premières études qu'on a conduites en milieu dit difficile, c'était des études en collège, dans un collège du centre-ville de Marseille, où de manière très récurrente, dans les entretiens qu'on a pu conduire avant de procéder à des films, des autoconfrontations, les collègues avec qui on travaillait nous disaient de manière très très fréquente, franchement, avec certaines classes, à la fin d'une heure de cours ou à la fin d'une journée de travail, je suis plus fatigué par tout ce que j'ai pas réussi à faire que parce que j'ai effectivement fait. C'est-à-dire cette idée que, justement, l'action réalisée et l'énergie qu'on a mis dans l'action réalisée, elle est quelquefois moins coûteuse que toute l'énergie qui est liée au fait de ce qu'on aurait voulu faire sans parvenir à le faire. Autrement dit, la source de fatigue, vous voyez que c'est assez paradoxal, on se rend compte, et ça ne vaut pas que pour le travail d'enseignant, on se rend compte que la source de fatigue, elle est au moins autant à chercher du côté de l'activité contrariée, l'activité empêchée, l'activité suspendue. Et vous voyez en quoi c'est tout à fait intéressant pour les débutants. Les débutants sont saturés d'activités empêchées, d'activités suspendues, d'activités contrariées. Si on regarde les débutants sous l'angle de ce qu'ils font, comme ils sont débutants précisément, on a peu d'épaisseur de leurs actions professionnelles quand on la compare à l'action professionnelle à celle expérimentée. En revanche, si on fait une incursion dans leur activité, c'est-à-dire tout ce qu'ils voudraient faire sans y parvenir, tout ce qu'ils essaient de faire sans trouver les moyens de le faire, là on redonne tout le volume nécessaire à leur activité et du coup on peut conduire un autre travail avec eux sur comment recycler justement ce qui se joue dans cette bulle de l'activité, c'est-à-dire ce qui les préoccupe, comment le recycler, ça dans des occupations du côté de l'action plus efficaces, à la fois pour les élèves, du côté de la performance économique, mais aussi pour eux-mêmes, en termes de reprise en main de leurs difficultés. Oui, n'hésitez pas. Alors là, on touche à des aspects que j'ai pas évoqués, hein, mais qui sont liés effectivement au fait que lorsque on n'arrive plus à recycler ses préoccupations dans des occupations efficaces, à la fois par rapport à l'objet du travail, mais aussi par rapport aux effets en retour du travail sur sa propre activité, justement, la solution pour tenir au travail, c'est de développer des mécanismes de défense qui sont très largement étudiés justement par la psychodynamique du travail à la suite de deux jours. Donc deux jours a montré qu'effectivement ils permettent de continuer à tenir au travail, mais qu'en même temps ils affaiblissent l'activité, parce que du coup ils font obstacle à la possibilité de riposter. Se défendre, c'est pas riposter, c'est accepter un mode de vie rétréci. Et on voit bien comment des débutants s'enferment dans un mode de vie rétréci, c'est-à-dire multiplient les mécanismes de défense parce qu'ils n'ont plus les moyens de recycler ce qui les préoccupe dans des occupations plus efficaces. Et du coup, ça leur permet de tenir. Et les salles de prof ou les salles de maître regorgent de symptômes de ces mécanismes de défense. Hein. Des formules comme « c'est des petits cons, je vais les mater », très fréquentes, sont typiquement des mécanismes de défense. Parce que celui qui le dit, c'est d'une part, la plupart du temps, que ce n'est pas des petits cons, et que de toute façon, il n'arrivera pas à les mater. Et c'est une façon de pouvoir continuer à tenir avec ses élèves, mais finalement, en faisant l'économie, de reposer la question du métier. Quoi. D'où, là, ça a une conséquence très importante pour nous en formation, c'est en remettant au centre la question du métier qu'on peut aider les stagiaires qu'on peut démouler ces mécanismes de défense pour redéployer du pouvoir d'agir, justement.
Il me semble que ce sera une question importante, sûrement vendredi, sur ces indicateurs d'activité, notamment de savoir comment on peut aller appréhender, chercher, comprendre, analyser cette activité et pas rester sur cette partie droite du schéma, c'est-à-dire l'action et l'efficacité, cette partie émergée de l'iceberg, mais justement... se donner des moyens, construire des outils. Je fais un peu écho à tes propos sur la pédagogie différenciée de tout à l'heure. Si on reproche aux uns de nous adresser des prescriptions sans nous donner les outils, merci. Encore faut-il que sur ce lien entre un certain nombre de travaux de recherche et des actions de formation, on soit peut-être en mesure vendredi au cours de pas forcément sur des séquences de présentation formelle, mais plus sur des moments de travail en groupe, d'essayer d'envisager, d'élaborer, de concevoir des dispositifs, sinon finis, mais au moins la structure générale qui nous permettent d'appréhender ces indicateurs d'activité précisément.
Donc ce modèle, on donnera un petit biblio après, je l'ai dit, mais Hubo 96, c'est le chapitre d'un ouvrage qui s'appelle « L'ergonomie en quête de ses principes ». Donc là, il s'agit du chapitre rédigé par François Hugo, paru chez Octares. J'ai choisi, parmi bien des références possibles, j'ai choisi ce modèle parce que il est à la fois, il nous semble, puisqu'on en a discuté souvent, assez simple d'accès, et en même temps, il soulève toute la complexité de la question de l'activité. Donc c'est l'intérêt de... Un modèle, ça devrait être fait pour ça. C'est à la fois une réduction de la réalité, mais en même temps, ça permet de maintenir vive toute cette question de l'activité. Alors, avant de passer à la suite, je voudrais juste dire que dans ce qu'on vous proposera, on a fait les uns et les autres un double pas en avant, je dirais, par rapport à cette première modélisation de l'activité. Donc, j'évoque très rapidement ces deux pas en avant sur lesquels on reviendra. Première critique qu'on peut formuler à l'encontre de ce modèle... C'est cette idée de face-à-face entre des prescriptions d'un côté, un opérateur de l'autre. Entre contraintes d'un côté et liberté du sujet de l'autre, pour faire vite. Ou interprétation. Parce qu'on se rend compte que ça marche jamais comme ça dans une situation de travail, et pas seulement dans le travail enseignant. Entre les prescriptions et l'activité de chacun, il y a toujours quelque chose que certains auteurs avec lesquels je travaille, Yves Clos et Daniel Faïta en particulier, ont proposé d'appeler un intercalaire social. C'est-à-dire qu'on n'est jamais seul face aux prescriptions. Ou plutôt, on peut le dire différemment, lorsqu'on se retrouve seul face aux prescriptions, comme disait Canguilhem, c'est le commencement de la fin. C'est là qu'on commence à souffrir. Donc cette question des collectifs, hein, l'intercalaire social, c'est finalement ce qui s'intercale entre la prescription et l'activité de chacun, c'est des collectifs de travail, des dimensions collectives, liées à la façon dont chacun... va s'emparer de ce qu'on lui demande de faire pour essayer de fabriquer du métier, fabriquer des règles de métier. Donc le collectif de travail, c'est un organe, finalement, de digestion des prescriptions. Et du coup, je vais pouvoir puiser dans les règles que le collectif met à ma disposition pour pouvoir faire ce qu'on me demande de faire et éviter de me retrouver tout seul face aux prescriptions. Donc là, on a quelque chose qui est vraiment une constante dans toutes les interventions qu'on peut faire depuis presque une dizaine d'années maintenant. À chaque fois que dans un milieu de travail, dans un établissement, une école primaire, etc., il y a défaillance du collectif, au sens que je viens d'évoquer, c'est-à-dire comme un organe de digestion des prescriptions, comme une instance qui finalement met à la disposition de chacun des façons de faire dans lesquelles chacun va pouvoir puiser, une sorte de boîte à outils collective, quand il y a défaillance de cet intercalaire social, alors il y a perte d'efficacité d'un côté et souffrance au travail de l'autre. C'est-à-dire que ça a des effets directs sur l'efficacité objective et l'efficacité subjective. Donc ces dimensions collectives de l'activité individuelle, elles le sont essentielles dans notre approche. Et je dirais, par rapport à l'approche traditionnelle, à la fois parce que tout individu est pris dans un collectif, ça c'est le premier niveau d'approche des rapports entre l'individuel et le collectif, tout sujet au travail est pris plus ou moins dans un collectif de travail, avec un sentiment d'appartenance à ce collectif, mais aussi, deuxième niveau qui lui, peut-être fait moins souvent l'objet d'une approche aussi précise, il faut aussi regarder en quoi il y a du collectif dans l'individu. Ou quelquefois, quand il n'y en a pas, justement, c'est là que ça fait problème. Cette idée de l'individu dans le collectif, mais du collectif dans l'individu. Alors, je vais faire un détour par la psychologie du travail, le travail d'Yves Clos, notamment sur les conducteurs de train, hein, qui vous paraît éloigné du travail des enseignants. Mais quand Yves Clos dit fait parler les conducteurs de train et qui disent on est seul en cabine, mais on a plein de références en tête, ben justement, ces références, c'est les références collectives. C'est-à-dire qu'ils ont, même s'ils sont seuls en cabine, comme l'enseignant est seul dans sa classe, on peut être habité complètement par des références collectives. Et un des problèmes aujourd'hui du point de vue du travail enseignant, c'est que ces références collectives sont de plus en plus...
Lâches,
oui, c'est le moins qu'on puisse se dire. En déshérence, hein, en souffrance. Et là aussi, il faut mesurer l'incidence qu'a eu le passage d'une école normale, qui fixait des normes professionnelles, auxquelles chacun essaie plus ou moins de se tenir en les retravaillant, mais qui malgré tout constituait des références partagées sur comment s'y prendre dans telle ou telle situation professionnelle, aux IUFM qui sont sur une autre logique, et l'adjectif normal, je crois qu'il était intéressant, parce qu'on voit bien qu'on a besoin de normes professionnelles pour travailler, et la question qui se pose aujourd'hui, quand on travaille avec des milieux difficiles, et là pas seulement pour les débutants, c'est finalement, où est le métier, quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans certaines situations ? Et on se rend compte qu'il n'y a plus de répondants collectifs, quoi. Et là aussi, en salle de prof, on se rend compte qu'on a bien souvent des récriminations sur le monde des mécanismes de défense, et le métier ne répond plus, quoi. On ne sait plus très bien ce que ça veut dire enseigner avec certains publics. Est-ce que c'est être psychologue, assistante sociale, grand frère, grande sœur, etc. Il y a un brouillage du sens du métier qui est préjudiciable à l'efficacité du métier. Donc en tout cas, cette question du répondant collectif, ce n'est pas seulement le collectif vivant, là, hein, celui dans lequel... on est inséré chacun de nous aujourd'hui, c'est aussi ce que Clos appelle le collectif sédimenté, c'est-à-dire l'histoire du collectif, qui essaie de garder vivante l'histoire du métier.
Mais qu'est-ce que c'est que d'être prof, quoi ?
Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire être prof aujourd'hui ?
Oui, c'est ça.
C'est une question que se prend en pleine gueule et que se prennent les débutants lorsqu'ils se trouvent confrontés à ce type de public.
Surtout en milieu difficile.
Et particulièrement en milieu difficile.
Justement, là, si tu permets de rebondir, moi, il me semble que là, parce que ça fait déjà quelques temps qu'on utilise ce schéma, moi, je serais assez d'accord avec toi pour le remettre en question, pour le remettre à notre main. Et en particulier, suite à ce que tu dis, si tu veux, moi, il me semble que le fait de mettre dans les deux cases qui sont en haut à gauche et en bas à gauche, si tu veux, d'une part des prescriptions et d'autre part un opérateur, moi, ce qui me choque, c'est que moi, je mettrais plutôt prescripteur en haut à gauche. Alors, tu le dis pas, Hubo, hein, mais si tu veux, moi, je mettrais assez prescripteur. Pourquoi ? Parce que la question du collectif que pose Fred... Il se pose pas seulement pour l'opérateur. Et moi, il me semble aussi qu'il se pose beaucoup pour le prescripteur. Et je fais référence, si vous voulez, à la question aussi de, finalement, est-ce que dans les IUFM, enfin, je sais pas, hein, ou est-ce que dans les circonscriptions ou dans les inspections d'académie, finalement, on se retrouve dans le collectif, quoi, hein. Est-ce qu'il y a un genre formateur ? Je dis ça parce que souvent, les stagiaires, ils disent, ah ben, quand je suis visité par Madame Machin, c'est pas pareil que quand je suis visité par Monsieur Truc, tu vois. Alors ça, c'est très important parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de collectif de prescripteurs. Et donc, et peut-être c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est peut-être un des trucs sur lesquels on a échoué pour l'instant à l'IUFM. Enfin, on soumet ça à votre réflexion, hein, mais si vous voulez, c'est la question. Bon, les IUFM, elles ont été faites pour qu'il y ait un genre, hein, c'est-à-dire un collectif, premier degré, second degré, enseignant, quoi, hein, pour qu'il y ait un... Et donc, ce genre enseignant, il soit transmis, il est comme vecteur, finalement, un genre de formateur, quoi, hein, bon. Or, on se rend compte que, en tout cas, à l'IUFM de Nice, hein, ça se passe pas vraiment, il y a encore des cloisons assez étanches, hein, entre premier et second degré, par exemple. Même dans le second degré, il y a des cloisons encore assez étanches entre des disciplines. Alors, je veux pas faire un tableau trop noir, mais ces cloisons, elles sont pas toujours très étanches, hein, mais dire, parfois elles le sont encore assez fortement. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas de collectif de formateurs. Alors non, vous voyez bien, des gens sont en train d'apprendre le métier, hein, donc ils sont en train d'entrer dans un collectif, Et il passe avec des formateurs qui, l'un s'intéresse à l'enseignement de sa discipline, c'est vachement important. L'autre, il a une vision beaucoup plus, je vais dire, transversale pour aller vite, ou etc. L'autre, il va mettre l'accent sur le fait que les élèves, ils doivent prendre une autonomie, etc. Alors que l'autre, il met l'accent sur le fait qu'il faut tenir le programme. Vous voyez, donc, si vous voulez, il y a une sorte d'explosion aussi, de dispersion, d'hétérogénéité dans la bulle qui est en haut à gauche. Et à mon avis, elle vient du fait qu'on ne peut pas mettre en rapport des prescriptions, qui sont des choses, avec un opérateur qui est une personne. Donc, je pense qu'on devrait s'autoriser peut-être à terme à faire ça. Si je t'embête, tu me le dis. Hein.
Non, pas du tout.
On est en train de régler nos comptes.
C'est dans le droit fil de ce que j'ai développé là, à l'instant. En même temps, bon, moi, je garde l'ancrage dans ce modèle parce c'est fondateur en ergonomie. C'est de montrer justement comment on peut dépasser aussi cette approche-là. Donc, de deux manières. Le premier pas en avant, c'est cette question du collectif, le collectif de travail, les dimensions collectives, l'intercalaire social entre la prescription et ce que chacun fait, avec d'ailleurs la nécessité d'élargir les prescriptions, parce que les ergonomes ont montré aujourd'hui qu'il y a des prescriptions descendantes, celles qui apparaissent ici, celles qui viennent du prescripteur, mais il y a aussi des prescriptions remontantes, des prescriptions ascendantes, et par exemple, ceux qui viennent de l'activité des élèves, c'est une forme de prescription. Un élève qui m'interrompt dans le cours, un élève qui lève la main, est-ce que je l'ignore, est-ce que je lui donne la parole, etc. Donc on est sollicité à la fois par des prescriptions descendantes, mais aussi par des prescriptions ascendantes qui remontent de l'objet de travail lui-même. Ce qu'on trouve dans les activités de service, les travaux sur les infirmières. Quand une infirmière organise la distribution des médicaments, un malade qui, à un moment donné, tire le signal d'appel, c'est une forme de prescription. Est-ce que j'y réponds ou pas ? Comme un élève qui lève le doigt, etc. Donc on voit bien que cette idée de processus de prescription, c'est pas que du descendant, c'est aussi ce qui remonte. Et vous voyez que dans le cas de l'enseignement en milieu difficile, il y a des formes de prescription très contraignantes pour les... C'est-à-dire que quelquefois, même les élèves en viennent à prendre en main le pilotage de la classe, à prescrire à l'enseignant ce qu'il devrait faire. Vous voyez comment il est pris dans le feu de deux prescriptions, les prescriptions descendantes avec toute leur complexité, mais aussi les prescriptions remontantes liées à l'activité des élèves plus ou moins dociles, plus ou moins contestataires, etc.
Ça, on le verra très bien. On le verra assez bien demain après-midi dans l'analyse de certaines transactions professeurs-élèves, notamment sur des moments de conflit où les enseignants nous livrent dans les entretiens d'autoconfrontation. Là, j'ai pas le choix, il faut que j'intervienne. En quelque sorte, je suis un petit peu dos au mur, je ne peux pas continuer mon cours, je suis obligé d'interrompre le déroulement usuel pour régler un problème en aparté, pour répondre à une sollicitation d'un élève. Et donc là, il y a des prescriptions qui sont extrêmement fortes, qui viennent de l'objet de travail et qui ne sont pas simplement, entre guillemets, les prescriptions en amont du métier.
Et pour finir, donc, on peut reprendre cette idée de collectif à travers l'idée que... par rapport à ce processus de prescription à la fois descendante et ascendante, il y a des prescriptions qu'on pourrait qualifier d'exogènes, c'est-à-dire de l'extérieur de l'activité, soit du point de vue du prescripteur, soit du point de vue de l'objet du travail. Mais pour qu'on puisse travailler, il faudrait pouvoir disposer aussi de prescriptions endogènes, c'est-à-dire celles que se donne le milieu de travail, le collectif de travail, pour arriver à faire ce qui est à faire. Et là, on peut reposer effectivement la question que soulevait Jacques, qui là est une question sur laquelle on reviendra vendredi, qui touche à la question de formation de formateurs cette fois. Quel collectif de formateurs ? Il faut que ce soit régulé, il faut que ce soit coordonné, impulsé, etc. Et aujourd'hui, alors on aura l'occasion d'en discuter, puisqu'on vous laissera le temps de réagir par rapport à ce qu'on a dit, mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, on est dans 3 IEFM différents, 4 avec Luc. On a quand même le sentiment que c'est un des gros problèmes de la formation aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que cette question du genre de métier, elle touche aussi à la question du genre de métier formateur, quoi. En termes de prescription endogène, c'est-à-dire comment on crée les conditions pour que les formateurs se donnent des références communes, qui ne sont pas des normes, justement, à appliquer telles quelles, mais qui sont des façons de faire et de penser dans lesquelles on peut puiser pour faire ce qui est à faire en formation. Deuxième, j'ai annoncé 2 pas en avant. Premier pas en avant, donc cette question de l'intercalaire social, avec tout ce que j'ai dit sur les prescriptions et le rôle du collectif. Deuxième pas en avant, c'est précisément une remise en cause d'une définition trop positive de l'activité. La définition classique qu'on trouve chez Le Plat, etc., en psycho du travail, en ergonomie, la tâche, c'est ce qui est à faire, l'activité, c'est ce que font les gens. Et il s'avère que quand on regarde à la loupe les milieux de travail et l'activité des opérateurs dans ces milieux de travail, on se rend compte que l'activité, ce n'est pas seulement ce qu'on fait, c'est aussi tout ce qu'on voudrait faire, tout ce qu'on n'arrive pas à faire, tout ce qu'on s'interdit de faire ou qu'on nous interdit de faire, etc. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre, justement, de l'activité contrariée, l'activité empêchée, l'activité suspendue. Tout ça fait partie de l'activité. D'où la nécessaire distinction entre l'activité ou l'action réalisée et l'activité réelle, qui, elle, va bien au-delà de l'action réalisée, puisque finalement, je vais citer Vygotsky, là, il dit, je cite de manière lâche, l'action réalisée à un moment donné n'est qu'une infime partie de ce qui était réalisable. Autrement dit, cette idée que l'activité déborde largement ce qui est réalisé à un moment donné. Ce qui est réalisé à un moment donné, ça n'est qu'une infime partie des possibilités réalisables. Et ça, pour nous, ça a une conséquence très, très importante en formation, parce que ça veut dire que, notamment dans l'entretien de conseil, il faut pouvoir remonter du réalisé au réel de l'activité. C'est repartir de ce qui a été réalisé pour redéployer le champ des possibles avec le stagiaire. Vous voyez que c'est du coup faire un travail en sens inverse de celui que fait le stagiaire, qui va partir d'un champ des possibles et va choisir à un moment donné, va faire un choix qui se traduit par l'action qu'il a réalisée. Et le travail de formation, c'est de remonter à sens inverse du réalisé au réalisable, justement. Alors, petite deuxième illustration clinique sur cette idée qu'il faut concevoir que l'activité se développe sur le mode d'une efficacité dynamique, c'est-à-dire que cette efficacité... elle bouge, et on ne peut pas l'évaluer toujours avec les mêmes critères au fil du développement professionnel. Et donc cette efficacité dynamique, elle est liée justement entre la tension entre ce que j'ai appelé l'efficacité objective d'un côté et l'efficacité subjective de l'autre. Petit exemple très éclairant pour nous, qui est donc un extrait d'une part de l'entretien de conseil entre un formateur, conseiller pédagogique, second degré, donc un formateur prof de PS et par ailleurs... qui est en charge l'accompagnement de stagiaires sur le terrain, et puis un professeur du collège-lycée deuxième année de PS. Et on va regarder successivement un très court extrait de cet entretien, et ensuite l'autoconfrontation du stagiaire à l'entretien. Hein, l'entretien est filmé, ensuite il est confronté à l'entretien. Alors c'est ce que j'appelle un deuxième prototype clinique, je l'utilise très fréquemment parce qu'il concentre finalement plein d'ingrédients sur lesquels on va revenir après dans la formation. Donc, T pour tuteur, ST pour stagiaire, hein, tuteur, donc conseiller péda, formateur. Bon, on va y aller, ils viennent d'assister à une séance de gym, hein, et ils démarrent de manière un peu brutale. Bon, on va y aller, on va prendre ta séance par le début. Le début de la séance, comment t'a-t-il paru? Assez réussi ou non? Donc, entrée en matière un peu abrupte, qui malgré tout pourrait inviter le stagiaire à formuler ses critères de réussite, hein, assez réussi ou non. Qui permettrait peut-être de l'efficacité objective, mais aussi peut-être le lien avec l'efficacité subjective. Et donc, il va essayer de formuler ses propres critères d'efficacité sur le pôle-là de l'efficacité subjective, plutôt mieux que d'habitude. J'ai eu moins de mal à obtenir le silence. Là, on est pour moi sur le pôle de l'efficacité subjective pour lui. C'est-à-dire ce qui le préoccupe et la façon dont il essaie de recycler cette préoccupation. Hein. D'habitude, c'est... Et là, il est coupé par le tuteur qui lui dit « Oui, mais tu n'as pas contextualisé ta leçon. » Tu n'as pas fait référence au travail de la semaine passée sur le salto et la TR. Donc, bien qu'ayant un passé de gymnaste, je me garderai bien de faire devant vous le salto et la TR. Mais en gros, salto, c'est saut périlleux. Hein, et ATR, c'est la putain dure inversée, l'équilibre sur lui-même. Donc là, on a ce qu'on pourrait appeler une règle de métier, hein, qui a une validité dont on peut discuter, mais qui apparaît comme ça en rupture par rapport à la tentative d'évaluation sur le pôle de l'efficacité subjective à laquelle procède le stagiaire, plutôt mieux que d'habitude. Lui rebascule du côté de l'efficacité objective en rapatriant une règle de métier du point de vue de l'efficacité objective qui est, lorsqu'on démarre une séance, il faut permettre aux élèves de s'y retrouver, etc. Donc il va essayer de se justifier. Enfin oui, je l'ai fait un peu, mais comme ils étaient attentifs, je voulais aller vite pour tout de suite embrayer sur l'enchaînement. Donc vous voyez la situation dans laquelle il est. Il se trimballe un problème de prise en main de la classe et notamment, il est en difficulté au moment de la passation des consignes permettant la mise au travail des élèves. Pour une fois, les élèves sont attentifs et en plus, il y a son conseiller pédagogique qui est présent. Donc pour lui, c'est une sorte de victoire professionnelle. Il en retire une forme de plaisir et du coup, il en profite pour les mettre très rapidement au travail. Mais ce faisant, il fait passer à la trappe le temps de contextualisation. Et le conseiller pédal, le formateur, va réagir en pointant quelque chose qui est assez systématique dans beaucoup d'entretiens, qui renvoie au fait que les formateurs et notamment les formateurs de terrain, bien souvent, enfin les conseillers pédants en particulier dans le second degré, bien souvent regardent davantage l'activité des élèves que l'activité du stagiaire qu'ils sont censés observer. Et du coup, on peut repérer que ce qui organise la logique de leur prise de parole et des conseils qu'ils donnent est complètement centré sur l'activité des élèves et beaucoup moins sur l'activité du stagiaire. Donc c'est le cas ici, avec là une bascule, hein, il lui dit « tu ne te places pas à la place des élèves ». De quel cours arrive-t-il ? Et là ça, je dirais qu'il y a une rupture là qui s'opère, notamment par rapport à toutes les données qu'on a accumulées depuis plusieurs années maintenant sur l'activité des débutants, pour qui justement on se rend compte qu'ils ne peuvent pas se placer à la place des élèves. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en situation de ce que j'ai appelé double apprentissage, situation très sous-estimée dans la formation, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois à organiser l'apprentissage des élèves tout en gérant plus ou moins bien leur propre apprentissage du métier. Et ça se traduit par des choses qui font écho à des données d'expérience pour vous, hein, mais qu'on retrouve aussi bien dans les travaux de Lucria que dans les miens, que dans ceux de l'équipe de Jacques, Stéphano, etc., Eric, qui est lié au fait que bien souvent, on fait le constat qu'on a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des élèves en face d'eux. Mais ce n'est pas seulement une impression. C'est que dans leur activité, ils sont beaucoup plus centrés sur les effets en retour de l'activité qu'ils ont à l'égard des élèves par rapport à leur propre activité, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus centrés sur leur propre apprentissage professionnel que sur celui des élèves. Donc du coup, les informations qu'ils prélèvent sont des informations en termes de confort ou d'inconfort professionnel que génère tel ou tel dispositif, beaucoup plus qu'en termes de pertinence didactique sur les effets que ça produit sur les élèves. Et là, les données de Luc sont très intéressantes. Dans sa thèse, il utilisait des cardiofréquencemètres. Et lorsqu'il a mené les jeunes stagiaires d'éducation physique, maintenant il a élargi à d'autres disciplines, mais à l'époque il travaillait sur les stagiaires d'éducation physique, dans les temps d'autoconfrontation, c'est-à-dire au moment où ils regardaient le film de leur activité, il leur demandait de se situer sur une échelle de confort ou d'inconfort professionnel. Et on se rend compte qu'à certains moments, qui constituent des épreuves fortes pour les enseignants, ce que Luc appelle des passages critiques, des passages à risque, notamment le moment de l'appel où on regroupe les élèves, etc., ils ont la fréquence cardiaque qui monte à 180, 190, etc. Gros inconfort professionnel. Et du coup, une des solutions pour eux, c'est de mettre très rapidement, comme le fait ce jeune collègue, la classe au travail. Mettre la classe au travail, c'est réduire le temps très anxiogène où je suis face au collectif et où les choses m'échappent, etc. Donc vous voyez comment là, il y a un dilemme entre d'un côté la nécessité de contextualiser la leçon et de l'autre le fait que dans cette situation-là, on a une situation d'inconfort professionnel. Donc il faut pouvoir travailler sous cet angle-là en formation aussi. Comment ? Ce qui échappe complètement à cet enseignant expérimenté, c'est justement parce qu'il a incorporé complètement le métier, c'est l'idée qu'on a affaire à chaque fois à des gestes professionnels dilemmatiques. C'est-à-dire que dans la même situation ici, il faut à la fois pouvoir gérer le groupe, capter l'attention des élèves, réguler l'attention des élèves, etc. Et en même temps, prendre le temps de leur expliquer ce qui est à faire. Donc il faut trouver des formes de compromis que ce jeune collègue n'a pas encore réussi à trouver. Donc sa solution, c'est de mettre, surtout que là, ils sont attentifs, de les mettre très rapidement au travail pour mettre la classe en ordre et en état de marche. Donc il en rajoute une couche, je ne sais pas, tu vois, c'est que tu ne fais pas assez attention aux transitions. En règle générale, il faut prendre garde à bien faire le lien avec le travail passé. Tes élèves, ils ont oublié ce qu'ils avaient fait la semaine précédente. C'est à toi de les remettre dans le bain. Oui, mais je l'ai fait un peu. Pas assez, pas assez. Ils ont dû être très surpris par l'enchaînement. Ce qu'il faut, c'est prendre bien le temps de positionner ta séance après les autres. Il faut leur remettre en mémoire ce qu'ils avaient fait auparavant. Ça donne du sens à leur travail et ça assure la continuité. D'accord ? D'accord, j'essaierai. Donc, vous allez voir ce que signifie cet accord de surface. Donc, c'est des données qui sont empruntées, oui, je ne l'ai pas dit, à un travail de Marc Durand. Hein. Donc, on va regarder cette fois l'autoconfrontation à l'entretien de conseil. Hein. Donc, cette fois, c'est le stagiaire en présence du chercheur qui réagit à l'entretien au film de l'entretien de conseil. Alors, entrer en matière brutale pour entrer en matière brutale, lui aussi, il n'y va pas par quatre chemins. Je n'ai pas toujours l'impression qu'il me serve à quelque chose, donc il parle de son conseil pédagogique. Là, vous voyez, pour le début de la séance, il n'a pas raison. Il me dit de rappeler ce qui a été fait, mais je pense que ça fait perdre du temps et que les élèves, ils s'en moquent. Ils l'ont déjà vu et de répéter, ça les ennuie. J'ai déjà essayé et les élèves se sont mis à parler entre eux, pas intéressés. Alors je préfère aller vite. De toute façon, on n'a jamais le temps de faire les choses à fond. Donc là, il y a plusieurs choses, mais il y a notamment cette idée que il a essayé, il n'est pas parvenu à le faire, ça génère de l'inconfort professionnel pour lui, donc il écarte ça de son répertoire de réponse. Et ça aussi, c'est une constante. Hein. Le fait que finalement, le répertoire de gestes et de réponses professionnelles qu'il se forge est organisé prioritairement autour des effets en termes de confort ou d'inconfort professionnel. Quelle que soit par ailleurs la pertinence didactique du dispositif ou de tel ou tel moment, acte professionnel, etc. Donc là aussi, il faut avoir ça en tête pour pouvoir le retravailler et essayer de travailler cette question de la double efficacité à la fois du côté du confort professionnel, mais aussi du côté des élèves. En termes forcément de compromis. Hein. Les compromis entre l'efficacité objective et l'efficacité subjective. Le chercheur lui dit, tu dis pas ça dans l'entretien. Non, je lui dis pas, ça servirait à rien. Alors, j'ai choisi, je dois le préciser, j'ai choisi cet extrait parce que il évite le piège qui consisterait à mettre en scène une situation où on a un stagiaire qui va remettre en cause la théorie de la formation. Ici, on a affaire à un stagiaire qui s'accorde pour dire que, sur le fond, bien sûr, il a raison. Donc, il ne remet pas en cause la validité des conseils qui sont donnés. Et par ailleurs, on est dans une situation où on a affaire à deux enseignants, l'un étant conseiller PEDA, mais en exercice, prof de PS, et l'autre jeune collègue. Donc on n'est pas dans une situation avec un écart plus grand quelquefois entre le formateur UFM qui a perdu les pieds avec le réel et puis le stagiaire qui a les mains dans le cambouis. Et pour autant, la circulation de l'expérience ne fonctionne pas. Je me suis bien rendu compte que les élèves n'en veulent pas. Ça ne sert à rien de discuter avec lui. C'est pas qu'il refuse le dialogue, mais il ne se rend pas compte des difficultés que j'ai. Et là, pour moi, il dit quelque chose de tout à fait essentiel. C'est-à-dire qu'il remet en cause, et ça on a plein d'exemples dans les entretiens, qui justement ne fonctionnent pas bien parce qu'on a l'impression qu'il y a deux logiques parallèles entre le formateur et le formé. Chaque fois qu'on regarde l'activité de quelqu'un en position, comme dit Yves Schwartz, qui est un collègue qui à l'Université de Provence travaille avec une approche philosophique sur le travail, en position d'exterritorialité, c'est-à-dire sans se situer sur son terrain à lui, mais avec sa propre paire de lunettes, chaque fois qu'on a un surplomb par rapport à l'activité, on produit ce type d'effet. C'est-à-dire le sentiment que celui qui est observé ne s'y retrouve pas dans la description qu'on fait du travail, parce que justement, il ne regarde pas les difficultés qu'il a, il ne regarde pas le travail de l'intérieur. Quoi. Donc, on pourrait le dire avec d'autres mots, hein. Ça veut dire qu'il ne se rend pas compte des difficultés que j'ai, ça ne signifie pas qu'il ne comprend pas ce qui me préoccupe. Et je l'écrirai volontiers en deux mots, là aussi, pour reprendre une formule utilisée par des collègues en psychologie sociale du travail. Les stagiaires sont très largement préoccupés. Et c'est ça qui organise leurs occupations avec les élèves. Et préoccupé, ça veut dire que c'est quelque chose qui les habite profondément avant même d'entrer en interaction avec les élèves. Donc là, sa préoccupation, c'est justement de gérer, de trouver des issues pour gérer ce moment difficile de passation des consignes. Je ne lui en parle pas, je n'essaie pas de le convaincre. Je me dis qu'il voit ça de l'extérieur, hein, position de surplomb, exterritorialité, comme dit Schwartz. C'est pas lui qui se coltine à la classe. Il ne peut pas sentir les choses comme moi. Et là, vous voyez que ça soulève une double question. D'une part, première question, qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde l'activité de quelqu'un ? Mais aussi, quelles méthodes permettent justement, et on y reviendra notamment vendredi, quelles méthodes sont plus favorables pour remettre au travail cette tension entre préoccupation et occupation ? C'est-à-dire finalement, quelles méthodes permettent de jouer le rôle de révélateur des difficultés telles qu'elles sont vécues de l'intérieur par le stagiaire ? Et dans ce cas, tout à fait, bien sûr, tout à fait. Mais dans ce cas, je trouve que sa formule, elle porte encore plus loin. Parce qu'en l'occurrence, là, le collègue en question qui est en position de tuteur, de conseiller PEDA, c'est un praticien, il se coltine aussi la classe. Tu vois? Donc c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de voir que ça ne se joue pas uniquement dans le dialogue quelquefois difficile entre le formateur UFM qui a pu la classe et puis le stagiaire qui a les pieds dans la classe. C'est que là, en l'occurrence, il sait. Par ailleurs, il va le voir, puisque dans la formation, ils sont amenés à aller observer leur conseiller PEDA, il le voit faire avec les élèves. Et du coup, ce qu'il lui reproche là, alors c'est effectivement ce que tu dis sur les deux univers de discours, moi je le retraduirai sur le fait qu'il rabat finalement son activité à lui sur l'activité de ses élèves. Et il ne prend d'informations que sur l'activité de ses élèves et pas sur son activité à lui. Donc la question qu'on posait tout à l'heure à partir du modèle Dubo, sur les indicateurs d'activité, lui il va chercher des indicateurs de résultats du point de vue de l'activité des élèves. Qu'est-ce que ça produit sur les élèves ? Pas du tout d'indicateurs d'activité sur le stagiaire lui-même. Donc du coup il y a un double rabattement je dirais dans cette situation d'entretien. Il y a un premier rabattement qui consiste à rabattre l'activité du stagiaire qui est censé être observé sur l'activité des élèves. Et il y a un deuxième rabattement qui s'opère au moment où, finalement, il rabat les préoccupations de ce stagiaire, ce qui le préoccupe effectivement, sur les occupations auxquelles il se livre avec les élèves. Donc du coup, c'est ce qui, entraîne cette réaction du stagiaire. Hein. Il ne peut pas sentir les choses comme moi. Parce que ce qui passe à la trappe, effectivement, c'est tout ce qui le préoccupe et dont il ne fait plus du tout un objet de discussion dans l'entretien parce que c'est écarté d'entrée de jeu par le formateur. Quoi. Et c'est ce qu'il va dire après. As-tu l'intention d'essayer? Parce qu'il dit d'accord. J'en sais rien. Peut-être si j'ai le temps, j'y penserai. Mais là, c'est plutôt pour changer de sujet parce que ça ne m'intéresse pas vraiment. Je veux qu'on parle plus de la manière de représenter le travail sur les enchaînements de figures. Donc, je laisse filer. Ce qui là aussi est très fréquent dans les entretiens. Alors, à partir de là, j'ai pratiquement terminé. Hein. Un petit modèle, alors on pourra faire comme l'année dernière, mettre à la disposition des stagiaires les PowerPoint. Hein, donc vous aurez. On mettra en ligne. On mettra en ligne, ouais. Bon, je le déroule très rapidement, j'avais prévu de. C'est un modèle que j'emprunte à Marc Durand dans le bouquin qu'il a fait en 96 qui s'intitule L'enseignement en milieu scolaire, où il propose de regarder, de considérer que. L'activité des enseignants, pas seulement des débutants, est organisée de manière hiérarchisée en fonction de 5 variables. Donc ces variables, c'est l'ordre, la participation, le travail, l'apprentissage et le développement. C'est ce que j'appelle le modèle OPTAD, hein, pour O-P-T-A-D. L'idée donc est de considérer que tant que subsistent des problèmes massifs au niveau des variables de niveau inférieur, on ne peut pas imaginer que le stagiaire soit efficace du point de vue des variables de niveau supérieur. Bon, en clair, tant que persistent des problèmes de mise en ordre de la classe massifs, et c'est le cas justement en ZEP, hein, avec des classes difficiles, de toute façon, quelle que soit la pertinence de la préparation, de dispositifs d'apprentissage, etc., les élèves n'apprendront pas parce qu'ils restent debout, ils se tapent sur la gueule, etc. Hein, ou ils se crachent dessus. Donc, vous voyez bien ces situations, et on verra demain avec Luc que c'est pas du tout... je ne force pas du tout le trait, hein, en Seine-Saint-Denis, on a là un véritable effet de loupe sur ces situations. Donc cette idée que, finalement, les préoccupations, elles se déplacent en fonction de cette hiérarchisation des préoccupations. Les premières variables, les premières préoccupations qui, justement, préoccupent les stagiaires, c'est des variables liées à l'ordre, la participation et le travail. On le voit bien avec ce jeune stagiaire de PS. Avec... Bon, j'y reviendrai, je continue à expliciter le modèle et puis je ferai cette remarque un peu plus tard. Donc, ordre, c'est les préoccupations qui touchent à tout ce qui est la mise en place des règles de fonctionnement, de travail, de fonctionnement, etc. La participation, c'est tout ce qui touche aux préoccupations relatives à l'engagement des élèves dans les tâches, solliciter la participation des élèves. La variable travail, elle renvoie aux préoccupations de voir les élèves se mettre au travail, comme on dit, hein, avoir une activité conforme à un réel travail. Puis, la variable apprentissage, là, elle décale un petit peu, elle déplace l'horizon, puisque cette fois, c'est plus seulement s'engager ponctuellement, immédiatement dans un travail, mais c'est aussi s'engager dans un travail qui va être productif, générateur d'apprentissage. Donc, on dépasse là les performances et les comportements ici et maintenant. Mais du coup, la conséquence pour l'enseignant, c'est que ça implique, comme dit Durand, une régulation plus complexe qui est due au caractère non observable de l'apprentissage. Durand reprend les travaux de psychologue en disant qu'on sous-estime peut-être beaucoup trop qu'en formation, que l'apprentissage, c'est un, comme il dit, un processus souterrain, donc non observable directement, et à long délai de réponse. Donc là aussi, vous voyez comment ça peut se traduire par des choses qui moi, m'ont toujours déstabilisé. Quand dans un jury de CAFIM, par exemple, pour ceux qui sont dans le premier degré, on dit à un collègue « Qu'est-ce que vos élèves ont appris aujourd'hui ?» Ça pose problème quand même du point de vue de ce qu'on sait sur l'apprentissage parce que je mets au défi n'importe quel, y compris psychologue cognitiviste, d'être capable à l'issue d'une séance de dire ce que les élèves ont appris. Hein. Cette idée, Durand insiste beaucoup là-dessus, c'est un processus souterrain à long délai de réponse. On peut dire ce sur quoi on les a fait travailler, on peut dire quels sont les enjeux de l'apprentissage, mais ce qu'ils ont appris, ça excède très largement ce qu'on est en mesure de dire à l'issue d'une séance. L'apprentissage, c'est un processus qui se construit dans la durée avec des désorganisations, des réorganisations, etc. Et je pense qu'on aplatit souvent la complexité de l'apprentissage à travers ce type de questions en formation. Et souvent, avec un regard extérieur, en extérritorialité, sur des performances ponctuelles d'élèves, justement. Donc cette question de l'apprentissage, et on franchit un pas de plus avec les préoccupations relatives au développement, puisque le développement, en fait, c'est la façon dont chacun des élèves de ma classe va s'emparer finalement des apprentissages pour en faire une source de développement personnel en termes de construction de visée éducative à long terme, citoyenneté, sécurité MEPS, santé, etc. C'est-à-dire des choses qui déplacent encore plus l'horizon temporel et sur lesquelles l'enseignant a encore moins de prise. C'est-à-dire qu'il va organiser des tâches, l'enseignant, dont il pense qu'elles génèrent des effets d'apprentissage à plus ou moins long terme et qu'à dans un terme encore plus éloigné, elles vont permettre la construction de visées éducatives à plus long terme, développement de l'autonomie, etc. Mais vous voyez, toute cette complexité et le fait que, quand on regarde ces cinq variables-là, hein, ces cinq préoccupations, on se rend compte que la variable charnière, c'est la variable travail. D'ailleurs, les enseignants, aussi bien expérimentés que débutants, parlent de mise au travail des élèves, de mise au travail de la classe. Mais que cette variable travail, elle n'a pas le même sens selon qu'on s'intéresse aux débutants ou aux expérimentés. C'est la remarque que je voulais formuler. On se rend compte que pour les enseignants expérimentés, reconnus comme efficaces, la mise au travail des élèves, elle est organisée par rapport aux effets d'apprentissage et à plus long terme de développement. C'est-à-dire qu'ils ont engrangé en quelque sorte un système de tâches, une articulation de tâches dont ils savent que, à tel moment, en fonction de tel degré de réussite dans la classe, elles vont permettre à une majorité d'élèves de réussir et donc de construire dans la durée des apprentissages. Mais pour ça, ils ont la mémoire des expériences antérieures. Le débutant, lui, il est souvent privé de cette expérience-là, puisque quand il débute en TE1, il ne sait pas comment ça évolue une classe sur l'année. Dans le meilleur des cas, les PCL ont eu les quelques classes avec lesquelles ils ont travaillé, les PE pas du tout, parce qu'ils n'ont jamais eu, les professeurs des écoles stagiaires ne sont jamais placés en situation de... Même dans le stage filé, ça évolue un petit peu, mais sur, de manière très ponctuelle. Donc cette idée de comment ça évolue un élève au cours de l'année, c'est-à-dire comment finalement les apprentissages se déploient, c'est un point qui leur fait problème. Alors que les enseignants expérimentés, et on voit bien comment un enseignant, y compris un enseignant expérimenté, se retrouve en difficulté lorsqu'il change de niveau. Un collègue qui a enseigné pendant des années en CM2 et qui passe en petite section de maternelle, il a à reconstruire plein de choses du point de vue justement de la logique de l'apprentissage et de la mise en relation entre tâches et apprentissage. Donc chez les enseignants expérimentés, le choix des tâches se fait en fonction des effets en termes d'apprentissage et de développement des élèves. Chez les enseignants débutants, c'est quelque chose de complètement symétrique, et on le voit très bien chez ce jeune collègue. Les tâches qui sont choisies, elles sont choisies par rapport aux effets qu'elles produisent sur la classe en termes de mise en ordre de la classe et d'enrôlement des élèves. Autrement dit, la même préoccupation, elle n'a pas le même sens chez les uns et chez les autres. Chez les uns, elle est tournée du côté des effets d'apprentissage et de développement. Chez les débutants, la mise au travail des élèves, c'est une façon de maintenir la classe à vie, en vie, c'est-à-dire en ordre et en état de marche. Donc là aussi, bien entendu, il ne faut pas se satisfaire de cette situation-là, mais c'est un passage obligé sur lequel il faut pouvoir travailler avec eux. Comment les aider à déplacer les compromis qu'il faut pour accroître l'efficacité, y compris du point de vue de l'activité des élèves, et donc de l'apprentissage. Alors, on va terminer par quelques questions, ce que j'appelais assertions, parce que là, c'est des thèses qu'on soutient, à partir de nos travaux, mais aussi des questions sur lesquelles on travaillera par rapport à la formation dans les trois jours. Première idée, définition très générale que je reprends de manière synthétique, l'idée que on peut concevoir, on peut se mettre d'accord sur cette définition-là, concevoir l'activité enseignante comme un accomplissement professionnel, hein, si je reprends de manière un peu synthétique ce que j'ai essayé de développer devant vous, qui est inextricablement lié à des processus d'apprentissage et de développement. Donc ça, avec une efficacité dynamique, ça bouge tout ça, qui implique un engagement personnel et subjectif, en lien étroit avec les caractéristiques des situations, et là vous voyez comment justement les situations d'enseignement difficile sont à prendre très au sérieux, hein, en termes de caractéristiques, mais aussi qui actualise, hein, cette activité enseignante, elle actualise en contexte une culture professionnelle en devenir. Pour les enseignants, ça renvoie à la notion que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est l'intercalaire social, le collectif comme organe de digestion des prescriptions, qui est un vecteur de règles de métier. Ça soulève une question sur laquelle on reviendra du point de vue de la formation, qui est quelle culture professionnelle en devenir visée pour des débutants. Et qui m'a conduit, moi, à parler de genre enseignant débutant. Il existe un genre enseignant expérimenté, mais il existe probablement un sous-ensemble de genre enseignant débutant qui correspond à des ressources intermédiaires entre ce que font les enseignants expérimentés et les difficultés que rencontrent les enseignants débutants. Donc cette culture professionnelle en devenir, là aussi on voit bien qu'on ne peut pas imaginer qu'un enseignant débutant, qu'il débute dans le premier ou dans le second degré, pénètre tout de suite les sous-entendus du genre de l'enseignant expérimenté. Il faut imaginer en formation une progressivité de cette appropriation du genre, d'où l'idée de genre enseignant débutant, qui est de concevoir à l'intérieur de ce genre enseignant, on y reviendra, hein, un certain nombre de façons de faire et de penser qui à la fois les aident à dépasser leurs difficultés et qui en même temps mettent le métier en perspective en direction du genre enseignant expérimenté. Deuxième idée, l'activité des enseignants débutants exerçant en zone de turbulence. Je reprends la formule à une IPR, IPRIA 2PS à Nick Davis, parce que j'aime beaucoup cette formule-là. Elle se traduit par un double apprentissage et double apprentissage contrarié. Alors pourquoi double apprentissage contrarié ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, comme tout débutant hors zone de turbulence, ils ont organisé l'apprentissage des élèves, mais dans une situation en zone de turbulence où cet apprentissage des élèves est particulièrement difficile à organiser, pour des raisons sur lesquelles on reviendra largement. Et comme tout débutant hors zone de turbulence, ils ont organisé à gérer leur propre apprentissage du métier, mais dans des situations tellement dégradées qu'il aurait souvent très difficile d'organiser ce propre apprentissage du métier. Donc je propose de considérer que l'effet de loupe dont je parlais, l'effet de loupe lié à ces zones de turbulence, amène à cette situation de double apprentissage contrarié, c'est-à-dire du côté des élèves et du côté de l'enseignant, et on regardera ces deux facettes dans la formation. Pour eux, faire leur métier, pour reprendre une formule en usage dans le vocabulaire professionnel, c'est à la fois organiser, donc, je viens de le dire, l'apprentissage des élèves, dont ils sollicitent une activité qui, bien souvent, est désaffectée, à tous les sens du terme, désaffectée par ces mêmes élèves, et gérer leur propre apprentissage du métier en élaborant des formes d'usage de soi. On verra tout particulièrement demain avec Luc à quel point c'est un enjeu vital pour certains jeunes collègues. Un usage de soi qui soit à la fois compatible avec les exigences d'efficacité et de santé requises par une activité qui se déploie en contexte dégradé. Donc c'est comme ça qu'on va, de manière systématique, regarder les différentes études de cas et les propositions qu'on fera, y compris le dernier jour. Troisième idée, l'idée qu'une multitude de préoccupations, en deux mots comme je l'évoquais tout à l'heure à la suite de Curie et Dupuis, se percutent dans leurs occupations et leurs élèves, et que donc il faut pouvoir faire quelque chose de ça en formation, les faire émerger et les remettre au travail, ces préoccupations, ou en tout cas travailler en permanence la tension entre les préoccupations et les occupations. Quatrième, je crois que c'est la quatrième, c'est ça ? Quatrième assertion, cinquième, bon. L'accroissement du pouvoir d'agir des enseignants débutants passe par le recyclage de ces préoccupations dans des occupations plus efficaces, à la fois pour eux et pour leurs élèves. Et là, je fais référence notamment à ce que j'ai montré à partir d'Aline, la recherche d'une efficacité malgré tout, qui est une efficacité relative et provisoire, dans la maîtrise de situations professionnelles problématiques, s'alimente pour eux de manière alternative, à la fois au sens de leur activité et aussi à la nécessité d'efficience. C'est-à-dire un double travail qu'ils font dans l'activité, mais que, de notre point de vue, ils devraient pouvoir faire aussi dans l'analyse de pratique, par exemple, entre d'un côté leur raison d'agir et de l'autre les moyens d'agir. Sauf qu'ils ne travaillent jamais sur ces deux pôles en même temps. On le voit bien avec Aline, c'est cette idée d'alimentation alternative. Au départ, ils arrivent avec une idée de ce qu'ils voudraient faire et ça se casse très rapidement à la figure. Donc ils sont confrontés à une nécessité d'efficience, ils basculent sur le pôle de l'efficience et là, ils se prennent en pleine gueule à la nécessité de trouver des moyens d'agir, y compris pour tenir avec des enjeux vitaux quelquefois. Et lorsqu'ils atteignent un premier palier d'efficience, lorsqu'ils arrivent à peu près à régler des problèmes de mise en ordre de la classe, alors ils se reposent les questions du sens de ce qu'ils font, de ce qu'ils font faire aux élèves et à nouveau ils vont faire évoluer l'efficacité. Donc cette idée que finalement, et là ça vaut bien au-delà des débutants, ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, le développement de la compétence professionnelle, il se construit dans ces allers-retours entre sens et efficience. Mais on ne règle jamais les deux questions en même temps. D'où les difficultés à l'entretien quand on a affaire à des gens qui sont sur l'efficience, en recherche d'efficience, et qu'on bascule sur la question du sens trop vite. Et là, on est pour eux hors de ce qu'on pourrait appeler leur zone de développement professionnel potentiel. Donc il faut pouvoir gérer cette tension entre sens et efficience. Je crois que c'est toi là, Jacques. Non, tiens, tu l'as mise avec où t'as... Après, après, ça va.
Je demande si c'est le moment, peut-être que ce serait mieux.
Ouais, on la fera en introduction cet après-midi. Donc là, c'est quelques questions sur lesquelles on va revenir de manière plus précise qui finalisent aussi le travail qu'évoquait Eric tout à l'heure, qui est le travail de vendredi, notamment l'après-midi, c'est-à-dire essayer de sortir aussi de la formation avec, non pas des dispositifs bouclés, mais des idées de pistes de travail un peu opérationnelles. Donc, quels apprentissages professionnels portant sur quel contenu et organisés sur quel dispositif sont susceptibles de permettre aux stagiaires d'inscrire cette efficacité malgré tout dans une efficacité dynamique dont la caractéristique est que justement les critères évoluent, puisqu'elle est dynamique. Mais en retour, en quoi et comment le développement de l'activité située de ces stagiaires peut aussi ouvrir la voie à de nouveaux apprentissages professionnels. Donc là, c'est toute la question de l'alternance qui est soulevée, hein, entre ce qui se joue, l'activité, on pourrait dire, sur le terrain, et l'activité en formation à l'UFM. Hein, comment repenser, lui qui reviendra, on y reviendra vendredi, comment repenser cette tension entre ce qui peut apparaître pour eux comme deux univers plus ou moins étanches, hein, pour reprendre les propos que tu... Donc, quelle gestion des écarts articulation entre l'activité en situation de travail en classe et dans l'établissement et l'activité en formation, à travers quelque chose qui pourrait subsumer ces deux facettes de l'activité, une activité de formation qui soit l'occasion de capitaliser les expériences vécues, mais pas seulement les expériences vécues sur le terrain, les expériences vécues en formation aussi.